au moment où je prenais le micro ne fonctionnait plus. Et on m'en a donné un deuxième qui ne fonctionnait pas aussi. Et devant moi se trouvaient près de 5 à 6 000 personnes. Et il ne fallait pas s'arrêter, il fallait continuer parce que ces âmes-là avaient soif. Ils voulaient entendre la parole de Dieu, recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et pendant près de 20 à 25 minutes, j'ai dû parler à ces 5 000 personnes sans micro. Alors je vous assure, c'était très éprouvant et ma voix a pris un petit coup. Mais en même temps, la gloire de Dieu était là, la bénédiction de Dieu était là. Parce que ces personnes avaient vraiment soif de Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Il veut aussi nous visiter et nous faire du bien. Je suis passé dans cette église il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est en septembre aussi que je suis venu ici. Je suis resté 3 mois au phare et à la source. J'ai été bien accueilli par vous. J'ai vu cet amour se manifester. Et ce matin, je suis venu ici. J'étais ici à 8h30. Et la première des choses, c'était de repartir à la chambre haute. Et là, j'ai vu toute cette équipe de frères et sœurs qui étaient là en train de prier. Je vous assure, ça m'a fait du bien. Parce que je crois de tout mon cœur que la force d'une église, c'est la prière. C'est la prière. Et Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui prient, qui s'engagent dans la prière. Comment est-ce que nous allons voir nos vies transformées si nous ne prions pas? Comment est-ce que nous allons voir nos familles s'établir, s'enraciner dans la vie chrétienne si nous ne prions pas? Comment est-ce que nous allons voir les changements dans nos églises si nous ne prions pas? Comment est-ce que nous allons voir des changements dans la ville dans laquelle Dieu nous a placés si nous ne prions pas? Nous avons besoin que le royaume de Dieu avance. Mais tout cela, nous allons l'obtenir par la prière. Là, nous parlons de l'implantation de l'église à Arras. Mais vous savez que Dieu nous aide, que nous puissions comprendre le monde du surnaturel, tout ce qui est spirituel. Mais il y a des princes qui nous attendent là-bas. Mais comment est-ce que nous allons les vaincre? Mais c'est par la prière. Pendant que Antoine parlait ce matin, moi je ne suis pas vénézuélien, je viens du Congo, ça fait une semaine que je suis là, mais avant même qu'il le dise, dans mon cœur j'étais touché par cette implantation. C'est ce que je fais dans mon pays, nous sommes en train d'implanter des églises et c'est un combat sur le plan financier, un combat aussi sur le plan spirituel. Une implantation demande beaucoup d'argent, on ne se rend pas compte. Et c'est notre responsabilité. Une âme sauvée est précieuse. Et avant que Antoine le dise, il y a quelque chose qui me disait dans mon cœur, mais il faut que tu sèmes dans ce champ. Tu as besoin de semer. C'est vrai qu'en retour, je n'ai pas besoin d'avoir 300 euros, mais j'aurai plus que cela. Toutes les bénédictions spirituelles que le Seigneur va m'accorder, je l'ai expérimenté dans ma vie. Le Saint-Esprit me disait, sème dans ce champ-là. Je disais, mais Seigneur, j'ai 50 euros. À vue humaine, ce n'est pas grand-chose, mais devant Dieu, c'est beaucoup. Moi, je mets un troisième panier. Et ça, c'est pour Arras. C'est pour semer dans ce champ-là. Et non seulement que j'apporte cette contribution financière, mais aussi dans les temps de prière, je crois qu'il faut compter sur nous. J'en parlerai à toutes nos églises et nous vous accompagnerons dans le combat spirituel, dans la prière, pour que cette œuvre-là puisse s'implanter. Je voudrais que nous puissions encore nous incliner dans la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi et nous avons besoin d'entendre ta voix, de t'écouter, Seigneur. Nous voulons simplement nous présenter devant toi et te dire, Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Bénis ce matin cette parole. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent à toi, que cette parole trouve un écho favorable dans nos cœurs, dans notre esprit, et que nous ne soyons pas simplement ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent aussi en pratique ta parole. Je prie, Seigneur, pour que tu déverses ton esprit dans cette église et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir les Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20. Et nous lirons les 16 premiers versets. Matthieu chapitre 20. Le verset premier dit ceci. Matthieu chapitre 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Verset 6, « Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Verset 9, « Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire mon bien ce que je veux, de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » C'est un texte qui est agréable à lire aussi et à méditer. Et en lisant ce texte, on se rend compte qu'il s'agit ici de la parabole des ouvriers qui sont loués à différentes heures. C'est la parabole des ouvriers. Et dans cette parabole, nous voyons que Dieu est le propriétaire de la vigne. Dieu est le propriétaire de la vigne et les croyants que nous sommes les ouvriers. Donc c'est une parabole. Et le monde, c'est le champ de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les ouvriers que Dieu a placés dans ce monde afin que nous puissions travailler pour l'avancement de son royaume. Et au temps de Jésus, donc à cette époque-là, louer les ouvriers, c'était une pratique qui était donc habituelle, et surtout pendant la période de la moisson. Les ouvriers donc allaient sur la place publique, se tenaient là à 6 heures du matin et restaient jusqu'à 6 heures du soir. Donc 12 heures, ils étaient là sur cette place, donc attendaient une personne qui venait les louer pour aller travailler dans leur vigne. Et nous savons que travailler dans la vigne du Seigneur, dans le champ du Seigneur, c'est un privilège. Et le salaire que Dieu nous donne en contrepartie, c'est une pure grâce. Je sais que je suis dans une église, c'est Dieu qui m'a appelé. Il y a quelques années, je travaillais comme enseignant. Et quand Dieu m'a appelé dans son champ, dans sa vigne, mais c'est par pure grâce que je suis venu et c'est par pure grâce que je vis. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur, la Bible dit, de ceux qui le cherchent. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme pour travailler dans son champ, la récompense ne viendra jamais d'une église. La récompense ne viendra jamais d'un homme. Le salaire ne viendra jamais d'une personne. Je me souviens quand Dieu m'appelait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? J'avais l'habitude d'avoir un salaire à la fin du mois, mais là, il fallait attendre maintenant, s'attendre à Dieu. Et je vous assure, chers amis, que je n'ai pas été déçu de ce Dieu-là. que je n'ai pas été déçu parce que au jour le jour, Dieu pourvoit à mes besoins. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je me rends compte que de jour en jour, Dieu me comble. Dieu me comble dans tous mes besoins. Donc, le salaire, c'est vraiment une pure grâce. Jésus a dit dans sa parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous savez que le gros problème qui se pose actuellement dans nos églises, c'est le problème des ouvriers. La moisson est là. Quand je regarde en Afrique, je regarde en Europe, je vois l'Amérique, dans tout le monde entier, il y a un problème d'ouvriers qui vont s'engager à servir Dieu. La moisson est grande. Et quand nous allons sortir à la fin de ce culte, on va regarder dans les rues, combien d'âmes ne connaissent pas le Seigneur? Combien d'âmes? Combien de personnes? Mais pourquoi cela? Parce qu'il manque des ouvriers. Le champ, la moisson est là, elle est mûre, elle est grande. Mais il faut des ouvriers. Mais ce sont nous, ce sont des personnes que Dieu cherche, que Dieu appelle. Et nous allons voir dans cette parabole que Dieu cherche des ouvriers, Dieu appelle des ouvriers. Le Seigneur n'a pas de besoin de mercenaires dans son champ. Mais Dieu a besoin des personnes qu'il appelle, qu'il a oint, qu'il a qualifié pour travailler dans son champ, dans sa vigne. Et chaque fois que Dieu appelle une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner son esprit. Il va le oindre. Et c'est ça le salaire, c'est ça le denier que Dieu promet à ceux qui vont répondre à son appel. Et si nous répondons à cet appel-là, Dieu va commencer à nous récompenser. Dieu va nous donner ce denier qu'il promet. Dieu va nous bénir. Et c'est une grâce de répondre à l'appel du Seigneur. Qui va dire ce matin? Qui va dire ces jours-ci? Oui, Seigneur, me voici, prends-moi, je veux te servir. Et s'il y a un domaine premier qu'il faudrait s'investir dans l'Église, c'est celui de l'intercession. Seigneur, prends-moi dans ce champ-là. Je suis intercesseur. Je veux commencer à prier pour que les âmes se convertissent, pour que ton Église soit établie dans la ville d'Arras, ton Église soit établie ici à Lille, ton Église soit établie dans d'autres localités, que des âmes que Dieu nous donne puissent grandir spirituellement, que nous puissions avancer dans les dons spirituels, dans les charismes. C'est cela. Dieu a besoin des ouvriers. On peut être ouvrier même dans sa maison, en train d'intercéder jour et nuit. On peut être ouvrier dans le lieu de son travail, en sachant que je suis une personne qui parle de l'évangile à d'autres. Dieu cherche des ouvriers. Et dans ce récit, le vigneron, donc le propriétaire de la vigne, cherche des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes aujourd'hui. Il cherche. Et dans 5 occasions, nous allons voir dans ce texte qu'il est allé sur la place publique pour chercher les ouvriers qui doivent travailler dans sa vigne. Et nous allons voir qu'à la fin, il leur a donné ce qu'il s'était accordé, le denier qui s'était accordé. Même ceux qui étaient venus dès le matin et ceux qui étaient venus juste une heure avant la fin du recrutement ont tous reçu le même salaire. Ce que je voulais te dire ce matin, qu'en acceptant de travailler avec Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est son esprit. Ce qui est plus important dans la vie d'une personne, c'est ce que Dieu met en nous, l'esprit qu'il met en nous. Que ce soit ceux qui nous ont précédés avant, Abraham, Moïse, le prophète Élie, Élisée, Jean-Baptiste, ils ont reçu le même esprit que nous, le même esprit. Et l'esprit de Dieu n'a pas changé. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons reçu la même chose qu'eux, parce que cet esprit est toujours là. Et en lisant ce texte, non seulement en le lisant, mais en le méditant, le Saint-Esprit nous apporte la révélation de ce que Dieu veut nous communiquer, de ce que Dieu veut nous enseigner. Et en méditant ce texte, la révélation que nous avons reçue, c'est que Dieu nous montre comment il visite la terre. Comment Dieu visite et agit. Non seulement comment il visite, comment il agit dans les nations, comment il agit dans des peuples, des groupes, des individus, depuis, dans le monde, depuis la création du monde jusqu'à maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre, comment Dieu agit. Et Dieu, la première fois, nous allons voir que le propriétaire de la vigne, la Bible nous dit qu'il est allé dès le matin. C'est la toute première fois. Je disais qu'il y a eu 5 occasions. qui sont présentées. Dieu cherche des occasions et il est là, il appelle. Et nous devons être sensibles pour comprendre que Dieu appelle, nous appelle. La Bible dit ceci, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Dieu peut nous dire, écoute, maintenant c'est ton temps de le servir. Mais nous endurcissons le cœur, nous ne voulons pas. Nous trouvons toutes sortes d'excuses. Donc la première fois, il est allé dès le matin. Cela veut dire quoi? C'est qu'avant que le soleil ne se lève, avant que tout le monde puisse être là sur la place publique. Donc il est allé dès le matin. Et dès le matin, ça veut dire quoi? Cela nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Dès le matin, cela veut dire au commencement, au début, Dieu a visité un groupe de personnes. Dieu a visité une nation. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu travaillait simplement avec les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les juges. L'Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Et Dieu, le Saint-Esprit travaillait d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire par moment. Quand Dieu voulait parler au peuple, l'Esprit venait sur le sacrificateur ou sur le roi et ou le prophète. Il communiquait la pensée de Dieu et quand il avait terminé, l'Esprit pouvait se retirer. Et tout le monde n'avait pas cette occasion de travailler avec l'Esprit de Dieu. Donc, il y avait aussi beaucoup de limites. Dès le matin, c'était au début, au commencement. Mais ces gens-là ont accompli des grandes choses avec Dieu. Que ce soit Abraham, lisons l'histoire d'Abraham, nous voyons ce qu'il a fait avec Dieu. Nous voyons Moïse, comment l'Esprit de Dieu les a accompagnés, comment il a pu faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, le désert, comment Josué, qui avait l'Esprit de Dieu avec lui. Il a pu conquérir le pays de Canaan. Nous allons voir comment Élie, Dieu l'a utilisé avec des signes, des miracles. Élisée, Jean-Baptiste, les Paul et les autres apôtres. Et vous m'excusez, j'ai un peu débordé. On s'arrête à Élie et Élisée dans l'Ancienne Alliance. Comment le Saint-Esprit a travaillé avec eux d'une manière puissante. Donc dès le début, donc ces gens-là avaient besoin. Le peuple d'Israël avait besoin de cette visitation. Et nous verrons que plus tard, par la bouche du prophète Joël, Dieu annonce maintenant qu'il voulait accorder son esprit à toute bande, sur toute chair. C'est merveilleux. Dieu ne voulait pas seulement se limiter aux sacrificateurs, aux rois, aux juges et aux prophètes. Dieu voulait maintenant que toute personne puisse avoir accès au salut et à la grâce. Que toute personne puisse maintenant le servir. C'est cela. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous faire simplement du bien le dimanche matin au culte. Non. C'est pour que nous soyons des témoins, pour que nous puissions le servir. Dieu a dit maintenant, je veux aller au-delà. Je veux donner mon esprit sur toute personne. Dieu ne voulait plus faire exception de personne. Dès le matin, ça c'est le commencement. Comment dans l'Ancienne Alliance, Dieu a travaillé. Et quand on lit l'histoire dans l'Ancienne Alliance, je dis, mais Seigneur, c'est merveilleux. Est-ce que c'est le même esprit qui est toujours là au milieu de nous? Je dis oui, parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Qui est en moi, qui est en nous? Seigneur, pourquoi tu as fait comme cela, Moïse, et pas à nous? Seigneur, pourquoi tu as utilisé Abraham de cette manière? Pourquoi pas aujourd'hui? Nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans nos églises, qui a une limite. Mais l'esprit est le même. Mais Dieu cherche des ouvriers. Ces sacrificateurs ont accepté de travailler avec Dieu. Ces prophètes ont accepté de travailler avec Dieu. Jérémie avait dit, Seigneur, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Il a accepté. Ils ont accepté de travailler avec le Seigneur. Donc voilà, ça c'était les ouvriers de, vraiment on peut dire, de la première heure, dès le matin, au début, au commencement. Donc Dieu cherche des occasions. Et la deuxième fois, il est sorti, moi je l'ai souligné dans ma Bible, il est sorti au verset 3 vers la troisième heure. C'est la deuxième occasion. Et la troisième heure, c'est 9 heures du matin. Et quand il sort, il voit encore du monde sur la place. Il se dit, mais il y a encore des personnes qui sont là. Vous voyez, le champ est là, mais il y a des personnes qui ne veulent pas s'investir. Il sort et il se rend compte qu'il y a encore du monde sur la place publique. Donc la troisième heure. La troisième heure pour nous, c'est une référence très intéressante. Je voudrais que nous puissions lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 15. C'est une référence intéressante. C'est la deuxième occasion où le propriétaire de la vigne est sorti. Actes chapitre 2,
la troisième heure. Nous connaissons bien ce texte. C'est le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les premiers chrétiens. Nous voyons comment les disciples ont commencé à travailler avec puissance, avec autorité. Le verset 15 dit ceci, c'est Pierre qui parle. Il dit « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Dieu ne fait rien au hasard. De la même manière qu'il est sorti dans cette parabole à la troisième heure, et nous voyons qu'à la troisième heure, c'est à cette heure-là que les premiers chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. L'onction était venue sur eux. Dieu leur accordait l'Esprit. Et nous voyons comment ils ont travaillé avec l'onction du Saint-Esprit. Beaucoup d'âmes étaient ajoutées à l'Église. Le Seigneur utilisait les apôtres et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Et la troisième heure, c'est une heure de visitation particulière pour les Juifs, parce que quand l'Esprit de Dieu est venu, il s'est manifesté essentiellement à Jérusalem et parmi le peuple juif. Je disais que la révélation que nous avons dans ce texte, c'est que nous voyons comment Dieu a travaillé depuis le commencement au niveau des peuples, au niveau des nations, des groupes, des individus. Et là, nous sommes la troisième heure, l'Esprit est venu au niveau du peuple juif. Donc Dieu a utilisé les Juifs pour présenter l'œuvre de Christ et moissonner. Nous pouvons dire que c'était les ouvriers de la troisième heure. Ce sont eux qui ont accepté. Jésus a dit, avant de repartir dans la gloire du Père, il a dit ceci, « Allez à Jérusalem, attendre l'accomplissement de la promesse. » Donc la promesse qui avait été annoncée depuis Joël, il dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Quand Dieu donne son esprit, c'est pour que nous soyons des témoins. Un témoin, c'est qui? Mais c'est celui qui travaille pour le Seigneur, qui gagne des âmes. Nous avons besoin de gagner des âmes. Nous avons besoin de travailler dans le champ du Seigneur. Nous voyons comment l'esprit est arrivé sur eux avec puissance, avec autorité, et ils ont été complètement transformés. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos propres capacités, avec nos forces, mais c'est avec l'esprit du Seigneur. Ce qui importe, c'est cela. Personne ne peut dire « qu'est-ce que je peux faire pour lui ?» Mais je suis incapable de parler. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous conduira. Alors, la troisième fois, en lisant toujours le texte dans Matthieu, verset 4, verset 5, « Il sortit de nouveau vers la sixième heure. » Il sortit de nouveau vers la sixième heure. Donc nous voyons que dès le matin, il est allé sur la place publique, il a trouvé qu'il y avait du monde qui était là, qui cherchait. Ce qui est bien dans cette parabole, c'est qu'il y avait des ouvriers qui étaient là sur la place et qui attendaient. Est-ce que nous attendons que Dieu nous amène dans son champ? Voyez-vous? Est-ce que nous sommes dans cette disposition d'attente? Mais eux, ils attendaient. Donc dès le matin, Jésus a vu qu'il y avait du monde qui était là. Et il a pris ceux qui voulaient bien y aller. Ah oui, parce qu'il faut l'accepter. Il faut le vouloir. Il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Vous voyez, souvent, nous ne voulons pas nous engager parce que souvent on dit, il y a comme un inconnu. C'est vrai, il y a l'inconnu. On ne sait pas ce qui se présente avant. Si je savais que servir Dieu était ce que je suis en train de vivre, je n'aurais pas accepté. J'avais une vie confortable, j'avais un bon salaire dans mon pays, en tout cas, il me manquait de rien. Mais quand j'ai accepté de le servir à plein temps, ce sont des problèmes, des difficultés. Ah oui, des angoisses, ne pensez pas que les pasteurs n'ont pas d'angoisse. Des angoisses, des stress, des souffrances, des privations, toutes sortes de privations. Des moments de jeûne et de prière. Privé de son épouse, privé de ses enfants, privé de sa famille, de certains loisirs, parce qu'il faut lire la Bible, parce qu'il faut prier, parce qu'il faut aller visiter, faire les visites pastorales, parce qu'il faut beaucoup de choses. Donc on ne s'appartient plus. On ne s'appartient plus. On est conscient que nous sommes consacrés, que nous devons servir le Seigneur, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, si nous avons pris conscience de cela. Et si on le savait d'avance, personne ne s'engagerait. On ne s'engagerait pas. Mais Dieu nous le cache. Il nous le cache. Et ça, c'est... Mais bien sûr, il le cache. Oui, non, il ne peut pas nous le révéler. Ça, il ne vous le dira jamais. Il ne vous dira jamais ce qui vous attend. Sinon, personne n'accepterait. Amen. Donc, la sixième heure, il dit qu'il sortit de nouveau vers la sixième heure. Et la sixième heure, c'est midi. Alors là aussi, je voulais dire que c'est une référence intéressante. Je voulais que nous puissions lire dans Jean chapitre 4, au verset 6. C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est la sixième heure. Jean chapitre 4, verset 6, qui dit ceci. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Je vous assure, il faut la révélation du Seigneur pour comprendre ce qu'il veut nous communiquer ce matin. Et Dieu ne place pas ses mots au hasard. Il sait pourquoi il fait certaines choses. Dans la Bible, tout est fait d'une manière précise. Vous voyez, donc la sixième heure, Jésus se retrouve là au puits de Jacob. Il y avait une femme samaritaine. Et ils ont commencé à parler de beaucoup de choses. Et cette femme va poser une question à Jésus pour savoir où est-ce que nous devons maintenant adorer. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et au verset 23 de Jean 4, verset 24 dit ceci, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Donc Jésus a fait cette promesse à la femme, que le Saint-Esprit maintenant allait l'aider à adorer. Ça sera plus sur cette montagne, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller sur les montagnes prier, ni à Jérusalem, mais nous allons maintenant adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, souvenez-vous, Jésus, avant de repartir dans la gloire du Père, avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Samarie, et dans la Samarie. Et nous voyons que Dieu voulait maintenant, par cette rencontre avec la femme, que cette parole maintenant vienne aussi dans la Samarie, que la parole de Dieu s'accomplisse. Et je pouvais dire que nous allons voir que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Et ceux-ci, quand ils sont arrivés en Samarie, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit du Seigneur. Ils ont commencé à prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu en Samarie. Mais cela a été rendu possible par le travail des disciples et du Saint-Esprit. Et nous allons voir que le territoire de Samarie a été sauvé de l'influence du péché de Jéroboam. Vous savez que c'est ce roi qui, quand il est venu au pouvoir, a amené le peuple d'Israël vers l'idolâtrie. Donc, ce travail des apôtres, de Pierre et de Jean, de Philippe qui avait précédé, qui avait accepté d'aller prêcher l'évangile en Samarie, nous allons voir que ce territoire-là a été transformé. Non seulement il y avait le péché de Jéroboam, mais il y avait aussi l'influence de Simon le magicien. Donc, et parce que ses disciples de Samarie ont reçu la parole. Et la rencontre de Jésus avec cette femme-là, à la sixième heure, a été une opportunité intéressante. Et ce territoire a reçu la parole, il y a eu un réveil en Samarie et des âmes ont été sauvées. Donc ce sont là les ouvriers de la sixième heure. La Samarie aussi a reçu la parole de Dieu. Et la quatrième fois, le Seigneur est allé encore à la neuvième heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Alors quand nous voyons dans Actes chapitre 10, au verset 30, je voulais que nous puissions lire cela. C'est aussi une histoire intéressante. Actes chapitre 10, verset 30. Il est dit ceci. Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. » J'ai souligné, neuvième heure. « Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Donc ici, on nous parle d'un homme qui était bon, libéral, Corneille. Il priait beaucoup. Et nous voyons qu'il priait à la neuvième heure. Et le Seigneur lui a parlé dans une vision qu'il lui envoie un homme qu'on appelle Pierre. Et Pierre va lui dire tout ce qu'il avait à faire. Et lorsque Dieu a parlé à Corneille, il a parlé aussi à Pierre. Et nous allons voir que dans une vision, Pierre va voir toutes sortes d'animaux. Et l'Esprit lui a dit, tu es mange. Pierre a dit non, il a refusé parce que pour un juif, c'était des choses impures qu'il ne pouvait pas consommer. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu préparait le cœur de Pierre à servir les gentils, à travailler parmi les païens. Parce que à cette époque-là, les juifs considéraient que les païens étaient des personnes impures. Donc Jésus préparait Pierre à servir tous les peuples. Et nous savons qu'aujourd'hui, la bénédiction de Dieu est pour tous les peuples et pour toutes les nations. Il y a des peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ce que nous appelons des peuples non atteints. Mais quand nous regardons, même en France, il y a des villages qui n'ont pas un témoignage chrétien, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des villes où il n'y a pas une influence vraiment chrétienne. Mais Dieu a besoin de nous comme ouvriers pour apporter l'évangile dans ces parties-là. Donc, ces personnes peuvent être considérées comme les ouvriers de la neuvième heure. Et nous allons voir que Pierre est sorti de sa vision. Quelqu'un va frapper à sa porte. Ils sont allés dans la maison de Corneille. Et Pierre pouvait maintenant dire, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Et quand il a commencé à prêcher dans la maison de Corneille, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur eux, sur les gentils, sur les païens. Ils écoutaient seulement et le Saint-Esprit est venu sur eux. Donc, ils ont fait la même expérience que les Juifs le jour de la Pentecôte. Et plus tard, Pierre va arriver à Jérusalem. Il commence à expliquer aux apôtres que le Saint-Esprit est descendu sur les gentils, sur les païens comme eux. Et nous avons besoin aujourd'hui de faire un travail particulier dans les villes, au niveau des peuples, au milieu des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi, on est étonné. Ce matin encore, je partageais avec mon jeune frère qui est venu d'Angleterre. Mais quand il me raconte un peu ce qui se passe actuellement. Mais nous avons dans notre esprit que c'est l'Angleterre qui a été une nation missionnaire en Afrique. Il y a eu les Suédois, mais il y a eu aussi les Anglais qui ont été des missionnaires en Afrique. Mais maintenant, il me dit, quand on repart, mais on ne retrouve plus cette ferveur-là. C'était des missionnaires. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est encore un pays où il faut que le Saint-Esprit visite. Qu'il y ait encore des missionnaires dans cette nation-là. Ils ont apporté l'évangile à d'autres nations, mais je crois que maintenant, ils ont encore besoin d'être visités par le Saint-Esprit. Et ça, c'est dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier. Chers amis, ce matin, mon message, simplement, c'est pour que nous prenions conscience qu'il y a un travail à faire. Je ne peux pas venir dans l'église et simplement me croiser les bras, ce n'est pas possible. Ou rester chrétien d'une église et être là le dimanche, ce n'est pas possible. Ma responsabilité, c'est de servir Dieu. Je suis ouvrier dans la maison de Dieu. Je suis ouvrier dans le champ du Seigneur. Et que ce matin, le Saint-Esprit nous parle. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans la maison du Seigneur? La première des choses, c'est la vie de prière, l'intercession. Que toute l'église soit engagée dans l'intercession. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas rester oisif dans la maison du Seigneur. Je ne peux pas me croiser les bras, ce n'est pas possible. C'est pas possible. L'église, c'est une maison de vie. C'est vrai, ce sont les bâtiments, mais on doit sentir la vie. C'est que tout le monde est engagé, que tout le monde a quelque chose à faire, que tout le monde a une part de responsabilité. Dieu cherche des ouvriers. Dieu cherche. Mais comment est-ce que les gens vont écouter l'évangile si nous ne travaillons pas pour le Seigneur? Ce matin, je ne culpabilise personne, je n'oblige personne, mais nous laissons le Saint-Esprit faire ce travail dans les cœurs. Mais nous avons notre responsabilité, c'est de prêcher la parole, de dire ce que nous devons faire. Quel est notre devoir? Dieu ne nous a pas appelés en vain. Je ne suis pas venu dans cette église en vain. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas venu sur la terre pour rien, pour accompagner les autres, non. Dieu nous a sauvés pour le servir. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons ouvriers dans son champ. Et il a besoin des ouvriers. La moisson est grande. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison du Seigneur? Nous voyons que le propriétaire de la vigne est allé à la troisième heure. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire, la visitation auprès des Juifs. Il est allé aussi à la sixième heure chez les Samaritains. La neuvième heure, le Saint-Esprit est descendu dans le monde païen. Moi, j'apprécie bien ce qui s'est passé avec Moïse, avec Abraham. J'apprécie bien ce qui s'est passé chez les Samaritains. Moi, je ne suis pas concerné par ça. J'apprécie bien ce qui s'est passé à la neuvième heure. Mais Jésus dit que le propriétaire de la vigne est allé encore la dernière fois. Il est allé à la onzième heure. Vous savez que le travail prenait fin à la douzième heure. Mais il est sorti encore sur la place publique. Mais qu'est-ce qu'il constate? Qu'à la onzième heure, une heure avant que les gens se dispersent, il y avait encore du monde. Donc, 5 heures de l'après-midi, juste avant le coucher du soleil, il y avait encore du monde. Donc, moi, je me rends compte que nous sommes ces ouvriers-là, de la onzième heure. Jésus se rend compte qu'il y a encore du monde. C'est notre temps. Le Saint-Esprit agit encore. Et le Saint-Esprit est encore en train de chercher les personnes. Il est venu pour se manifester. Et Dieu veut déverser son esprit. C'est le jour où Dieu veut déverser son esprit sur nous. Et avant son retour, nous savons que Jésus reviendra pour nous chercher. Il a promis une grande effusion du Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, « L'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Pourquoi Jésus ne vient pas? Mais parce qu'il attend que tout son troupeau puisse entrer dans la bergerie. Mais comment est-ce que son troupeau va entrer si nous ne travaillons pas, si nous ne leur annonçons pas l'évangile? Jésus ne viendra pas que tant que tout son troupeau n'entrera pas. Alors moi, je m'engage dans l'œuvre du Seigneur pour accélérer le retour du Seigneur, pour qu'il revienne. Et mon âme soupire, mon âme aspire au retour de Jésus. Je dis, Seigneur, viens. Nous t'attendons. Seigneur, viens chercher ton Église. Viens chercher tes élus. Et nous avons besoin de travailler, qu'ils viennent mettre fin à toutes sortes de choses que nous voyons sur cette terre. C'est tant que nous ne travaillerons pas, Jésus ne reviendra pas. Donc faisons partie de ces ouvriers pour la grande moisson. Et le vigneron, vous allez vous rendre compte qu'il a posé une question à ceux-là. Il dit, mais pourquoi êtes-vous toujours ici? N'êtes-vous pas allé à la moisson? Pourquoi êtes-vous toujours là? La onzième heure, il sort, mais il y avait toujours du monde. Et écoutez leur réponse, il dit, mais personne ne nous a loués. Mais le vigneron a dit, mais si vous allez, vous allez recevoir ce que de droit. Si vous acceptez, même pour les une heure qui reste, mais qu'est-ce qui est de droit? Qu'est-ce qui est de droit? Mais c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, le salaire qu'il promet, le denier qu'il avait promis à ceux qui étaient là dès le matin. Il avait promis un denier. Ce qui est de droit, c'est cela. La récompense, c'est cela. Ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est l'esprit que nous recevons de sa part. Et l'esprit qui est donné, qui nous est donné, c'est pour que cet esprit se manifeste. C'est pour que nous puissions travailler avec efficacité. Quel que soit notre statut social, ce n'est pas ça qui va nous rendre efficaces dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit notre argent, nos biens, ce n'est pas ça qui va nous rendre efficaces. Ce qui nous rendra efficaces dans le champ du Seigneur, c'est l'Esprit qui est en nous. C'est l'Esprit. Les gens ne regarderont pas à ce que tu es, mais ils regarderont à l'Esprit que Dieu a mis en toi. Et nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Seigneur. Quand nous nous convertissons, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on doit rechercher maintenant? C'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une expérience précise, elle est particulière. Et nous devons savoir si nous avons reçu l'Esprit du Seigneur ou pas. Si nous avons l'onction du Seigneur avec nous. Nous en avons besoin. C'est ça qui va changer l'Église. Que chacun de nous sache que j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur. Que je suis rempli du Saint-Esprit. Que je mène une vie de l'Esprit. Que je suis ouvrier de Dieu. Qu'il m'a équipé, qu'il m'a oint pour son travail. Et je suis prêt à faire ce travail-là. C'est ça l'Église. Nous avons besoin de l'onction du Seigneur pour moissonner avec efficacité. Dieu cherche une Église qui puisse aller de l'avant. Dieu a besoin d'une Église conquérante. Dieu a besoin d'une Église vivante. Dieu cherche des hommes et des femmes loin du Saint-Esprit. Il n'aura pas besoin de nos paroles. On peut parler toute la journée. Mais Dieu n'a pas besoin de cela. Notre prière, c'est que le Saint-Esprit visite nos églises, nos vies, dans la maison. Que le feu de l'Esprit soit là. Que nous soyons enflammés dans nos maisons, à l'église, tous les jours enflammés. Que l'Esprit de Dieu soit là. Mais c'est à partir du moment où nous allons accepter, le Seigneur va maintenant déverser son Esprit. Il va nous récompenser. voyez, ceux qui étaient venus très tôt le matin, au moment de la paye, se rendent compte qu'on leur a donné simplement un denier comme ceux qui étaient venus à la 11e heure. Ils étaient frustrés, ils disent mais pourquoi? Mais nous avons souffert, on était sous la chaleur, nous avons beaucoup travaillé. Un denier comme à ceux-là? Mais Jésus qui dit, mais je peux faire de mon bien ce que je veux. Il est libre. Ne dites pas oui, parce que je suis chrétien depuis longtemps, et ce qui est venu à peine, on commence à faire un travail, on l'utilise, il prêche. Non, Dieu est libre, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il choisit qu'il veut. Il voit la disposition du cœur. Voilà, ce que Dieu cherche, c'est cela. C'est cela, c'est pas la durée de notre vie chrétienne, c'est la disposition du cœur. Quand nos cœurs sont ouverts, quand nos cœurs sont sensibles, il déverse son esprit. Il nous rend capables, voilà le mot, de travailler dans son champ. Parce qu'on peut être là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église, mais on n'est pas disposé à servir. On n'est pas disposé à travailler. C'est vrai, on aime l'église, on vient, on aime Dieu. Mais il y a autre chose, c'est la disposition à travailler. C'est répondre à l'appel. Je crois que c'est un cri ce matin, c'est un appel ce matin. Dieu nous appelle. Et c'est ce message que je vous ai amené ce matin. Et Dieu nous parle, à moi aussi, que nous avons besoin de nous investir un peu plus. Et quand nous nous investissons, mes frères et sœurs, il y a des sacrifices. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Vous voyez tout le travail que font les ouvriers. Je suivais encore il y a une semaine, quand je suis arrivé en France à la télévision, je suivais le journal, que maintenant on va tenir compte de la pénibilité du travail pour la retraite. J'ai dit, ah ouais, ça c'est... Parce qu'il y a des personnes, il y a des gens qui travaillent comme ouvriers, mais qui ont des travaux pénibles. Mais travailler dans l'œuvre du Seigneur, je vous dis d'avance, c'est pas facile, c'est un travail pénible. C'est pour cette raison que très peu s'engagent. Ah oui, je vous assure, quand... Je ne veux pas vous perturber. Hein, quand j'ai vu mon jeune frère, avant de venir ici, qui sortait d'un très long jeûne. Un très long jeûne. Il lui a fallu environ pratiquement un mois pour se relever. Un mois. Et quand vous le voyez, mais il avait l'aspect d'un malade. C'est pénible. Il a fallu se réalimenter environ pendant un mois, après avoir fait un jeûne de près de 14 jours. 14 sans manger. Il prenait rien que de l'eau, 14 jours. Il commence le matin jusqu'à demain matin, 24 heures, ainsi de suite, 14 jours. Mais tout cela pourquoi? Mais c'est pour être utile dans les mains du Seigneur. Nous voulons être utiles dans ses mains, nous voulons être malléables dans ses mains. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Que nous soyons ses ouvriers, qu'il nous modèle, qu'il nous façonne, qu'il nous donne la forme qu'il veut. Nous sommes à lui, nous nous abandonnons à lui. Et pendant ces temps de prière, Dieu nous modèle, il nous transforme, il nous change. Il nous équipe. Et il a commencé à me dire ce que le Saint-Esprit lui a dit pendant qu'il jeûnait. Mais les choses merveilleuses, merveilleuses. L'Église ira de l'avant si nous nous consacrons à l'œuvre du Seigneur. Oui, tout le monde ne sera pas consacré à travailler à plein temps. Mais même à mi-temps, on peut être efficace. On peut être efficace et utile. Il y a du travail. Rien que l'évangélisation, rien que distribuer le prospectus, rien que témoigner, rien que la prière, s'occuper des enfants, ça c'est tout un travail. Et moi, j'imagine toujours l'église comme une ruche où tout le monde est en activité, où ça bouge. Il y a des gens qui sortent, qui rentrent. C'est pour ça que dans mon pays, l'église est toujours ouverte. Nous l'ouvrons toute la journée. Les personnes qui, pendant la pause, viennent prier, qui sont juste à côté de l'église, qui travaillent, pendant la pause, viennent se recueillir de midi à 14 heures. Donc le temps de pause café, ils viennent à l'église, ils prennent leur café à l'église et ils sont en train de prier. C'est un lieu de vie. Et ceux qui viennent pour la première fois doivent avoir des ouvriers. C'est nous qui devons entraîner ceux qui arrivent. Mais malheureusement, dans nos églises, quand des nouvelles personnes arrivent, on les décourage. On dit, ah ici, il faut se croiser les bras. Et tout le monde de l'église a les bras croisés. Même une personne qui vient avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de foi, nous la décourageons. Mais nous devons encourager ces personnes. Et nous devons montrer l'exemple, travailler pour le Seigneur. La moisson est grande, Jésus a dit, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Combien de personnes travaillent? Donner l'argent, ce n'est pas suffisant. On peut donner tout ce qu'on a. Ce n'est pas l'essentiel. Mais il faut s'investir. Voilà, ça c'est une très belle image que Fred nous a donnée ici, de cette personne qui n'avait rien à donner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée directement se mettre dans le panier. Elle s'est offerte. Elle s'est donnée à Dieu. Et en tant qu'ouvrier, il y aura aussi beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations, des choses pour lesquelles on ne pourra plus faire parce que nous avons une responsabilité. Il y a des âmes. On peut vous appeler à tout moment. On dit, il y a une personne qui est dans la détresse. Il faut aller à l'hôpital pour une visite pastorale, aller prier. Il faudrait aller voir un tel. Il y a des problèmes dans tel couple. Il faut prier. Mais nous comptons sur son esprit. Ce matin, je voudrais terminer par là et prier maintenant. Plus que jamais, nous avons besoin de son esprit. Peut-être que tu passes des temps de sécheresse où le Saint-Esprit t'avait béni, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je veux prier pour toi. Nous voulons prendre un tout petit temps, 5 à 10 minutes dans la prière, qui nous renouvelle, qui renouvelle l'Église, qu'il y ait un feu dans l'Église, que le Saint-Esprit déverse son feu, qu'il déverse sa bénédiction sur nous. Et ce matin, nous disons, Seigneur, nous sommes à toi. Pour moi, Seigneur, je veux te servir. Et si tu dis ça dans ton cœur, il va commencer à te servir. Vas-y, ne te pose pas de questions.